Alors, en ce moment, nous allons commencer un panel très intéressant. Un panel autour duquel nous allons parler de sujets qui concernent la couronne de vie. Vous allez connaître ce qu'est la couronne de vie, le but de la couronne de vie, la vie du pasteur même par rapport à la couronne de vie. Et donc, sans plus tarder, je vais inviter les panélistes de ces jours, un panel composé de grandes personnalités. Le pasteur Festo, qui représente l'Église, sous nos applaudissements. Il y a la sœur Ebilga et papa Jérémy. Voilà. Eh bien, bienvenue au panel de ces jours. Nous allons aussi inviter la sœur Jolie, qui représente la couronne des vies, sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Bienvenue à ce panel. Vous avez déjà votre micro, je crois. Bonjour, papa Jérémy.
Bonjour, Annette.
Bonjour, papa Pasteur.
Bonjour, Annette.
Bonjour, Julie.
Bonjour.
Bonjour, sœur Ebilga. Sans plus tarder, je vais commencer par poser des questions. Nous allons commencer avec le pasteur. Pasteur, quelle est la place du ministère des enfants au sein de la communauté?
Ah, merci beaucoup pour la question, mademoiselle Annette. Ah, je voudrais peut-être que vous puissiez préciser si c'est quelle communauté, si c'est la communauté baptiste au centre de l'Afrique ou si c'est la communauté... dans laquelle nous vivons.
La communauté baptiste au centre de l'Afrique.
Merci beaucoup pour cette cruciale question. Je vais y répondre à trois sous-points. D'abord, comme c'est la communauté baptiste au centre de l'Afrique, nous allons d'abord dire qui est-ce que la communauté baptiste au centre de l'Afrique considère comme enfant? Et dans quel cadre il est encadré et qui l'encadre. D'emblée, nous allons savoir que selon l'article 2 du règlement administratif du département des jeunes et enfants, est appelé enfant toute personne âgé de moins de 14 ans. C'est comme ça que ce règlement définit l'enfant. Alors cet enfant, dans l'Église, il est encadré dans un cadre que nous appelons école des dimanches. Chaque paroisse ou chaque chapelle a à son sein ces cadres d'encadrement d'enfants. Et ces cadres d'encadrement d'enfants, là, ils reçoivent les enseignements bibliques, les orientations pour une meilleure éducation. Alors, est appelé ministère des enfants, cet organe qui est chargé de faire le programme de ces enseignements de ces enfants. Et donc, il est clair que la communauté baptiste au centre de l'Afrique, qui est la CBK, a mis en place ce ministère dans le souci permanent de veiller sur le salut holistique, c'est-à-dire le salut intégral sur tous les plans. Les enfants ont besoin du salut physique, ils ont besoin du salut spirituel, ils ont besoin du salut économique, ils ont besoin du salut psychologique. Et alors, dans ce cadre-là, qu'on appelle l'école des dimanches, chapeautée par le ministère des enfants, c'est là que maintenant les enfants peuvent recevoir tout ce que nous appelons salut. Et donc, pour la communauté baptiste au centre de l'Afrique, l'école des dimanches ou la place des enfants, ils ont vu la place des enfants, est cadre où ils peuvent voir les enfants comme l'Église d'aujourd'hui, mais à partir de laquelle ils garantissent la vie de l'Église de demain.
Merci beaucoup. Nous pouvons acclamer pour cette réponse. Alors, ma sœur Ebilga, je fais appel à vous en tant que psychologue et experte. En quoi est-ce que l'appartenance à un groupe ecclésiastique ou à n'importe quel groupe contribue à l'épanouissement de l'enfant?
Merci beaucoup de la parole donnée. Alors, peut-être au-delà de parler comme psychologue, bon, le fait que je sois aussi encadreuse, donc monitrice de ces enfants au sein de l'école du dimanche, peut-être va me permettre de donner un peu plus de lumière sur cette question qui vient d'être posée. Alors, le fait que nous soyons êtres humains, notre nature nous pousse à être sociables. Donc, nous ne pouvons pas évoluer dans une société donnée sans appartenir à un groupe. Ce qui fait que nous le voulions ou pas, nos enfants vont appartenir à un groupe. Parce que la famille, déjà, en elle-même, constitue un groupe auquel nos enfants appartiennent. Alors maintenant, les avantages pour un enfant d'appartenir à un groupe au sein d'une église. Parce que le fait que nous soyons des êtres sociables, donc nous devons seulement appartenir à un groupe, mais il y a plusieurs groupes que nous pouvons retrouver à l'école, que nous pouvons retrouver au quartier. Nous pouvons vraiment retrouver des groupes dans plusieurs endroits. Mais maintenant, quand on parle de l'église, c'est vraiment un autre groupe. Et comme nous le savons, l'église, ça joue un rôle vraiment capital dans la transmission de la foi. Et donc, le premier avantage que votre enfant a à appartenir dans un groupe au sein d'une église, c'est déjà la foi. On lui transmet la foi qui va lui permettre de grandir en connaissant Dieu, mais aussi en sachant pourquoi il doit croire en Dieu. Alors, au-delà de ça, il y a plusieurs expériences que nous vivons à l'église que nous ne pouvons pas vivre au sein de nos familles. Parce que quand tu arrives à l'église, tu rencontres beaucoup d'autres enfants qui viennent de différentes familles. À l'école, donc dans la famille, nous recevons l'éducation de la part de nos parents. Eux, ils ont reçu l'éducation de la part de leurs parents. Parce que si je peux peut-être parler en tant que psychologue, il y a le moi qui te constitue. Toi, un être avec conscience, tu sais qui tu es, tu connais ton nom, tu connais tes valeurs. Mais il y a le ça. Maintenant, le ça, c'est lorsque Paul dit « Je fais ce que je ne veux pas. » Parce qu'il y a cet être intérieur-là qui te pousse à aller à l'encontre de ce que Dieu veut que tu fasses. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les surmoi. Les surmoi, ce sont là les valeurs que nous recevons à partir des ancêtres. Donc, il y a des valeurs que nous avons déjà reçues. Le respect, par exemple. Il faut saluer les aînés. Donc, ce sont des valeurs que nous avons reçues. Déjà, nos parents ont reçu de la part de leurs parents et ils continuent à transmettre ça. Alors, ces surmoi, nous les recevons au sein de nos familles. Mais quand nous venons ici à l'église, il y a maintenant cet aspect foi. Alors, dans chaque famille, il y a des forces et des faiblesses. Tout parent ne peut pas donner tout à ses enfants. Tu ne donnes que ce que toi, tu avais reçu de tes parents. Mais quand les enfants appartiennent à un groupe au sein de l'église, il y a quelque chose de plus qu'ils reçoivent. Là où ça a été la faiblesse dans telle famille, c'est une force dans une autre famille et ça devient complémentaire. Donc ça aussi, ça fait partie des avantages que les enfants qui appartiennent dans un groupe à l'église peuvent avoir. Mais aussi, l'église, c'est un lieu d'apprentissage. Nous apprenons auprès des autres. Les enfants, oui, c'est bon, à la maison, vous pouvez leur dire, il faut faire ça. Mais les enfants, ils apprennent plus en mettant en pratique. Et quand ils sont dans un groupe au sein de l'église, ils retrouvent beaucoup d'autres enfants. Ils apprennent de leur père. Et ça, ça renforce ce que vous voulez leur donner à la maison. Quand ils arrivent ici, avec les autres, ensemble, ils peuvent pratiquer et avancer. Donc, il y a plusieurs choses que les enfants ne peuvent pas apprendre à la maison, mais qu'ils peuvent apprendre au sein du groupe à l'église.
Merci, Sœur Evilga. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un groupe qui s'appelle Courant de vie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est constitué votre groupe? Y a-t-il un organigramme, une certaine organisation, ou c'est simplement des enfants qui sortent de chez eux, ils se retrouvent ici, ils commencent à chanter et ils rentrent?
Merci pour la question. Couronne de vie a une organisation, une administration bien structurée. Nous avons un comité et dans le comité, nous avons la présidence suivie directement de secrétaire, puis de la caissière. En dessous, nous avons l'entraîneur, par la suite, disciplinaire, etc., etc. Chaque membre de la chorale joue un rôle spécifique. Ce n'est pas simplement que l'enfant anatoka kunyumba anakuya, non. Chaque répétition est préparée pour l'épanouissement de l'enfant. Voilà un peu.
Merci beaucoup. Vous venez de comprendre que quand même la courante de vie, ce n'est pas quelque chose de pêle-mêle. Alors, pasteur, nous savons que la vision de l'Église, c'est de devenir une Église en bonne santé pour la transformation de la société. Alors, comment est-ce que vous intégrez le ministère de l'enfant dans cette vision de l'Église?
Merci beaucoup pour la question, sœur Annette. En fait, pour rappel, comme elle venait de le dire, la vision de l'Église, particulièrement la CBK Goma Ville, c'est d'être une Église en bonne santé pour la transformation de la société. Et pour que l'Église puisse atteindre cette vision, elle s'est assignée une mission. Et la mission de la CBK Goma Ville, pour rappel, c'est gagner, affermir et envoyer ce que nous appelons GAE en sigle. Alors, nous allons parler de ces deux, la vision et la mission, au même moment. Et donc, pour parvenir à cette transformation, c'est pourquoi l'Église met beaucoup d'accent sur la formation des enfants, met beaucoup d'accent sur la tenue de l'école des dimanches. Et cela se fait souvent par l'organisation des cultes, l'organisation des retraites, l'organisation des récollections, l'organisation des sorties. Et pour se rassurer que les enfants sont réellement dans un cadre qui va le préparer pour l'avenir de l'Église, pour que l'Église puisse atteindre sa vision qui est celle de la transformation de la société. Et toutes ces sorties, toutes les activités que nous faisons ici pour les enfants, et l'Église finance, mais aussi il y a une contribution considérable des parents. Et par ici, je profite à adresser nos remerciements aux chers parents, wazazi, pokeni, baraka, kutoka kwa Mungu, pour votre contribution considérable dans l'encadrement des enfants. Et à part ça, pour que les enfants soient transformés, parce que si les enfants sont transformés, sûrement ils vont transformer l'Église pour la gloire de Dieu, mais la société dans laquelle ils vivent sera aussi transformée. Et pour cela, nous organisons des formations des moniteurs, mais aussi nous organisons des formations des enfants évangélistes, pour que le moniteur soit outillé et que les enfants évangélistes aussi soient outillés à amener la société dans la bonne voie, qui est celle de la transformation, pas seulement spirituelle, mais aussi sociale, psychologique, en fait, comme nous l'avons dit, sur tous les plans. Et ici, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour adresser mes remerciements ou nos remerciements à tous les moniteurs de la CBK Goma Ville qui se donnent sans relâche pour encadrer nos enfants. Mais aussi, à partir de l'encadrement de nos enfants évangélistes et de tous les enfants de l'Écodime, Nous bénissons le Seigneur parce que à partir des enseignements que nous donnons à l'école de dimanche, nous avons ici des parents qui ont décidé de venir se joindre à la CBK Gomaville à cause de la foi de leurs enfants. Et pas une fois, nous avons aussi, peut-être c'est nous les pasteurs qui pouvons le savoir plus, si un enfant a un problème, un de ses parents meurt. Pas une fois, l'Église a enterré le parent de l'enfant au nom de la foi de cet enfant qui vient prier ici à Gomaville. Et pour ça, nous bénissons le Seigneur parce que les enfants que nous formons ici à Gomaville nous aident à atteindre notre vision. Pour même les parents sont transformés, la société est transformée.
Merci beaucoup. Papa Jérémy, nous apprécions aujourd'hui la personne que vous êtes.
Merci.
Alors, est-ce que vous pouvez dire que le passage à l'Écodim en tant qu'enfant y a contribué en quelque chose?
Évidemment oui, parce qu'il y a déjà un adage africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, il y a des choses qu'on a reçues de nos parents. Et comme nous venons de l'attendre des autres intervenants, nous, en tant que parents et même nos propres parents, avaient certaines limites. Et c'est comme ça que le fait que nous avons été immergés dans cet environnement-là, de l'Écodim, de l'Église, il y a d'autres choses peut-être qui manquaient à nos parents que nous avons reçues de ce que nous avons rencontré là. Parce que nous, en tant qu'enfants, une autre chose peut-être que je peux ajouter à ce que Ebilga a dit, les enfants, nous apprenons plus par immersion que toute autre méthode. Donc c'est l'environnement dans lequel nous nous trouvons qui nous forge le plus que tout ce qu'on peut nous dire, que tout ce que nous pouvons voir. Et donc le fait que nous avons été à l'Écodim a été vraiment fondamental au développement jusqu'à ce que nous soyons les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et donc merci encore une fois à l'Écodim et nous encourageons tous les parents à les envoyer, à envoyer les enfants à l'Écodim.
Voilà, merci beaucoup. Alors, Sœur Jolie, aujourd'hui nous parlons de la couronne de vie. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face aujourd'hui dans votre ministère et quelles sont vos perspectives d'avenir?
En tant que couronne de vie, oui, on fait face aux défis. Et le premier grand défi, c'est la séparation. Lorsque des enfants grandissent, ils sont obligés de quitter couronne de vie parce que, bon, chaque au mal, ils ne peuvent plus rester avec des enfants. Et ça, vraiment, ça pénalise parfois la chorale parce que certains ne préparent pas les successeurs et c'est vraiment terrible. Le deuxième défi, c'est par rapport à l'irrégularité des enfants aux répétitions. Ça nous arrive d'organiser des répétitions pendant le temps d'école et certains parents n'emmènent pas les enfants parce qu'ils se disent que mutoto atashindwa. Alors ça pénalise la chorale vraiment sana. À un tel point que parfois dimanche, on peut même chanter 20 personnes, mais le jour où il y a activité, on a qu'à faire 80 enfants. On se demande, mais abatoto te valitoke awapi. Le troisième grand défi, c'est le soutien des parents. Un enfant ne peut pas avancer sans être soutenu par ses parents. On peut être certes à la chorale, on l'encourage, mais tant que le parent mousazi à me soutenir psychologiquement, c'est vraiment impossible que l'enfant soit épanoui dans le ministère. Alors, ce problème-là, vraiment, c'est un problème que nous constatons souvent parce que nous pouvons encourager, c'est vrai, les enfants, mais si le parent lui-même à la maison ne prend pas le temps d'encourager l'enfant, de lui dire « Non, dans la vie, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, même si tu as mal presté aujourd'hui, ce n'est pas grave, Dieu reçoit la gloire dans ce que tu fais. » Nous ne pourrons pas le faire. Le quatrième grand défi, c'est l'importance des répétitions, le temps de répétition. Parfois, les temps de répétition sont très limités et on n'a pas vraiment le temps d'inculquer aux enfants ce que nous, comité, nous voulons qu'ils apprennent. Ça nous arrive de faire un programme de l'année, mais parce que le temps de répétition est limité, nous n'arrivons pas à donner tout le nécessaire à l'enfant. Voilà un peu les défis que Couronne de vie traverse.
Et en ces jours, quelles sont vos perspectives d'avenir? À quoi est-ce que les parents qui sont là et les futurs parents doivent s'attendre voir de la Couronne des Vies dans ces quelques années qui viennent?
Comme perspective d'avenir, nous, en tant que Couronne de Vie, nous souhaitons que tous les enfants de l'Écosim viennent dans la chorale Couronne des Vies. Parce qu'il y a un adage qui dit « Le feu brûle plus haut quand chacun y met son bois. » Donc, Karibou Sana à tous les enfants. Deuxièmement, nous voulons organiser des séances caritatives pour les enfants en besoin parce que c'est très capital. C'est vrai, nous pouvons avoir des vêtements facilement, nous pouvons avoir les cahiers pour les cours facilement, mais il y a ces enfants-là qui sont dépourvus de toutes ces choses. Alors nous, en tant que Couronne des Vies, nous voulons faire une bonne action, montrer que même en servant Dieu, nous pouvons toujours aider les autres. Troisièmement, il y a cet aspect-là d'être une chorale modèle au sein de l'Afrique, au sein du monde même. Être une chorale de référence, en tout cas. Parce que lorsqu'on doit voir Couronne de Vie, on doit se dire, non, il y a ces enfants-là qui servent l'Éternel, et pourquoi pas moi? Vraiment, ce sont ça les perspectives que nous avons pour l'avenir.
Merci beaucoup. Et il y a un aspect qui m'intrigue, je reviens toujours à toi, parce que vous avez parlé de séparation. Alors, il faut quand même laisser des traces. Lorsque je grandis, il faut que je me voie quelque part. Parce qu'aujourd'hui, si je peux dire que j'ai chanté à la Couronne de Vie, personne ne peut me croire. Donc, peut-être une nécessité, si je peux te compléter, de produire des albums à chaque fois. Nous grandissons tous les jours. Il y a ceux-là que vous avez vu chanter ici en tant que vétéran, mais vous ne les retrouvez nulle part, comme s'ils n'avaient rien fait. Donc, une nécessité de pouvoir produire des albums, sortir un cantique audiovisuel, que nous puissions avoir quand même la preuve qu'il y a des enfants qui sont passés par là. Merci beaucoup. Alors, je reviens à la sœur Ebilga. Par rapport à votre expérience en tant qu'encadreuse ou monitrice des enfants, où est-ce que vous trouvez la faille dans l'éducation des enfants que les parents peuvent corriger afin que nous soyons effectivement cette église en bonne santé pour la transformation de la société?
Merci beaucoup. Alors, concernant la faille que j'ai retrouvée, parce que ça fait déjà plus de 10 ans que je suis monitrice, et les grands défis que j'ai retrouvés avec les enfants, il y a un problème de communication au sein de famille. Et je voudrais vraiment insister sur ce point, parce que toute société fonctionne sur base de la communication. C'est impossible que vous puissiez vivre ensemble sans communiquer. C'est le grand défi auquel s'affrontent plusieurs enfants. Les parents ne leur ont pas, pour plusieurs, parce que pour plusieurs que j'ai rencontrés, il n'y a pas de communication. Ils ont peut-être, je ne sais pas s'ils ont une manière de communiquer qui n'est pas appropriée, mais moi personnellement, je qualifie ça de manque de communication. Une communication vraiment qui est appropriée parce que les parents ne savent pas les problèmes auxquels leurs enfants se heurtent. Et tellement les enfants n'ont pas été, on ne leur a pas enseigné à bien communiquer et aussi ils ne savent pas à qui s'adresser quand ils sont en problème. Et ça, c'est un grand défi. C'est vrai, à notre niveau, nous essayons de travailler sur ça. Mais nous aussi, nous sommes limités. Parce que si nous, on travaille sur cette communication ici à l'église et qu'à la maison, cela n'est pas renforcé, ça ne nous avantage en rien. Alors, peut-être c'est pour encourager les parents, commencez à communiquer avec vos enfants. Ce n'est pas à dire que non, c'est un fœtus, il ne peut pas m'entendre. Non, c'est que parce qu'il y a la Bible qui dit « Enseigne à ton enfant » la voie que tu aimerais qu'il puisse suivre, parce que même quand il sera vieux, il ne pourra pas l'oublier. Et pour enseigner un enfant, il y a la communication qui est au centre de tout. Commencez à parler à vos enfants. Déjà, quand il est, pour les femmes enceintes qui sont là, discutez. N'ayez pas peur ou honte qu'on vous dise que non, on va penser que je suis devenue folle parce que je parle à un fœtus. Ils écoutent. Parlez à vos enfants. Cultivez la communication au sein de la famille. Vous ne saurez pas les défis auxquels vos enfants sont en train de se heurter si vous n'arrivez pas à communiquer avec eux proprement. Vous ne saurez pas quand vos enfants sont contents si vous ne savez pas communiquer avec eux. Il y a plusieurs parents ici, bon, les enfants ont besoin de souliers, ok. Elle part à Birere, si c'est la maman, elle achète des ketchup et puis elle les amène aux enfants. Mais les enfants ne veulent pas de ces ketchup. Ce n'est pas ça leur besoin. Vous leur avez amené parce que vous vous êtes dit dans votre tête, bon, les enfants ont besoin des habits, on amène les habits. Mais ce n'est pas ça le problème, le besoin réel que l'enfant a. Alors, vraiment, je demanderai aux parents de voir comment améliorer la communication au sein de la famille. Comment est-ce que vous communiquez la joie à vos enfants? Qu'est-ce que vous communiquez à vos enfants? Parce que ce que vous communiquez à vos enfants, c'est ce qui va leur permettre de grandir en sachant que non, c'est de cette manière qu'on communique. Alors, veillez vraiment travailler sur ce point. Et que nous aussi, en tant qu'Église, à notre côté, nous allons voir comment insister sur ce point.
Merci beaucoup. En parlant de communication, est-ce que vous pouvez soulever encore cet aspect de punition morale? Il y a une façon de communiquer. Il y a bien sûr la communication en général et la façon de communiquer. Ces parents, ces enfants que nous rencontrons à l'école des dimanches et qui te disent que non, ma mère m'appelle d'un nom un peu d'un animal. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à corriger aussi ces parents qui appellent leurs enfants par le nom d'animaux quand ils sont fâchés ou à leur parler d'une façon là un peu bizarre?
Merci beaucoup. Alors, chers parents, moi, la Bible que j'ai lue, il n'y a pas un endroit où on m'a dit, bon, Dieu est venu, il a amené de bois, il a commencé à, comme nous construisons des maisons. Je n'ai pas vu un endroit où on m'a montré ça. Tout ce qui a été fait par Dieu, c'était à travers la parole. Et ce que nous communiquons à nos enfants, c'est ce qu'ils vont devenir. Ne vous en faites pas. Quand un papa dit, ouais, tout mina se monte à quoi qui est heureux, t'en fais pas. Demain, c'est ce que tu vas récolter. C'est une semence que tu es en train de planter. Quand tu es fâché, même si tu es très fâché, dis-lui, sors de là, toi, ingénieur qualifié. C'est bon. Parce que c'est la parole que tu es en train de lui transmettre et c'est cette parole qui va créer en lui ce que vous voulez voir. Mais quand tu dis... à ton enfant, oh, t'as quoi, tout mouise. Et puis demain, c'est pas ton téléphone qui va commencer à voler. Et c'est toi qui vas commencer à te lamenter. C'est vrai, oui, ça fait rire. Mais je vous assure, la parole a une très grande force. Dieu a créé par la parole. C'est Jésus lui-même qui est la parole. Alors, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Prononcer des paroles de bénédiction. Ça fait partie aussi de la communication. Voyez ce qu'il y a de mieux chez ton enfant et commencez déjà à proclamer cela. Commence déjà à prophétiser sur la vie de tes enfants. Commence déjà à dire à ton enfant ce que tu aimerais qu'il devienne demain.
Merci beaucoup pour cette parole. J'ai écouté une histoire comme ça d'un homme quand sa mère le tapait. Elle croit comme une mère. Uko mutumishi wa Mungu au pashiba. Donc quand vous tapez les enfants, tapez en prononçant de belles paroles. Alors pasteur, nous revenons vers vous. Quelle est la place de la chorale des enfants au sein de l'Église? Pourquoi autoriser aux enfants de chanter?
Merci beaucoup pour cette importante question. ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, le chant des enfants dans l'église, ou la place du chant des enfants dans l'église. En fait, comme je venais de le dire tantôt, la vision de l'église, la mission de l'église et la place du chant des enfants, corps des pères. En fait, on ne va pas les dissocier. Le fait que les enfants chantent à l'église, cela contribue aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu, afin que la société, l'église, soit transformée. Il contribue, la chorale contribue à la réalisation de cette vision par la louange. La louange, l'adoration, les chants d'édification que nous recevons chaque jour. Et donc, comme les chants ou la louange va demeurer, la Bible dit qu'elle va demeurer jusqu'à l'éternité. Tout ce que nous avons sur terre va finir, mais lorsque nous serons au ciel avec Dieu notre Père, nous allons chanter, nous allons nous joindre aux anges, continuer à chanter. Et donc, la chorale des enfants est une pépinière où est berceau du ministère du chant dans l'église. Donc, si nous n'avons pas de chorale d'enfants, imaginons-nous un culte sans louange les jours à venir. Et si nous avons un culte sans louange, je sais que plus de la moitié de ceux que nous sommes ici ne seront plus à l'église. Ne seront plus à l'église, seront ennuyés par seulement des prédications, des prédications, des prédications. Alors pour veiller à cela, la chorale des enfants est très importante comme berceau du ministère des enfants. En fait, je voudrais dire que la chorale des enfants, c'est une structure d'accueil, une structure de formation qui permet aux enfants de découvrir la foi. Ne vous en faites pas, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants qui viennent seulement à l'église et rentrent, ils sont différents de ceux-là qui viennent, à part les dimanches, mercredi et samedi, ils sont encore là. Ils ont un autre avantage d'être toujours devant la face de Dieu. Au courant de la semaine, ils sont toujours là. Et donc, c'est un cadre de formation, un cadre d'accueil qui peut les aider à découvrir leur foi. Ça les aide aussi à découvrir la musique sacrée et sainte. La musique sacrée et sainte. Nous avons beaucoup de sortes de musiques. Bon, il y a des musiques que nous appelons profanes, il y a des musiques que nous appelons chrétiennes, et donc la chorale des enfants. Si un enfant, un jour, il pourra se développer dans la musique dans sa vie, si nous voulons qu'il demeure connecté à Dieu, il serait important que sa formation commence dans la chorale des enfants, pour que lorsqu'il sera développé dans son talent ou dans les dons que Dieu lui aura donnés, que cela se traduise dans toute sa vie dans la musique chrétienne. Parce que la musique chrétienne, une musique qui est sacrée, une musique qui est inspirée réellement de Dieu, elle guérit plusieurs personnes.
Merci beaucoup. Alors, notre sœur Jolie nous a invités à amener tous les enfants au sein de votre chorale. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que les parents devraient vous faire confiance pour vous laisser diriger leurs enfants au sein de la chorale?
Waouh, c'est une très belle question. Les parents devraient nous faire confiance, premièrement, à cause de notre organisation. Je vais développer ça sous quatre volets. Le premier volet est que nous, en tant que comité, nous sommes engagés dans ce que nous faisons et nous sommes responsables. Quand l'enfant vient à l'église, nous nous rassurons vraiment de le mettre dans un cadre qui va l'épanouir. Nous nous rassurons vraiment que l'enfant est à 100% encadré. On ne fait pas les choses à moitié, non. On ne vient pas juste à la chorale pour chanter, non. On travaille aussi sur l'enfant. on lui apprend la discipline, on lui apprend la concentration. Et ce sont des points vraiment importants pour réussir à l'école. Deuxièmement, nous avons une expérience avec les enfants. Ça nous arrive qu'un enfant tombe malade, un enfant n'a pas de transport, ou bien un enfant banaza pigane. Ça nous arrive, oui. Et nous, en tant que comité, nous savons gérer ce genre de situation. Parce que nous aussi, on a appris cela de nos moniteurs. Et quand la situation devient un peu extrême, nous avons nos pasteurs qui sont toujours là pour nous soutenir. Alors, les parents n'ont pas à s'inquiéter. Nous sommes vraiment responsables. Troisièmement, nous apprenons l'enfant à travailler en équipe. C'est quelque chose de très important, travailler en équipe. L'enfant, on lui montre que dans la vie, on ne peut pas avancer seul. On ne peut pas, en tout cas, avancer sans les autres. Alors, l'enfant prend conscience qu'il doit toujours avoir des amis à côté, des alliés à côté, qui vont toujours le pousser vers l'avant. Et en dernier lieu, nous mettons l'enfant dans un cadre spirituel. C'est toujours en étant en communion que quelqu'un se développe spirituellement. Alors, nous organisons dans Couronne de Vie des séances de prière, des séances de méditation pour que l'enfant reçoive en tout cas la parole divine et que cette parole le construise.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et si ces quatre raisons ne vous suffisent pas, je vais dire comme on a dit à André, venez et voyez. C'est vil, hein? Alors, la sœur Ebilga, vous avez fait partie de la chorale Couronne des Vies. Je ne sais pas en quelle année. C'était en quelle année déjà?
Je ne me rappelle même plus. Mais quand même, il y a certains qui sont là avec qui on a chanté. C'est vrai, plusieurs me voient, mais ne pensent pas. Ils ne peuvent même pas imaginer que je faisais partie de la chorale. Parce que j'étais parmi ceux-là qui ne savaient pas chanter. Donc, jamais au micro, toujours des mythes, même à la maison jusqu'à aujourd'hui. Quand je chante, j'aime chanter, oui, c'est tout le monde qui commence à rire aux éclats. Mais je vais vous dire peut-être ce que moi j'ai appris
oui. À
travers la chorale. Parce que la chorale Couronne de Vie, c'est un groupe auquel j'ai appartenu ici à l'église et qui m'a vraiment forgé. Ça m'a vraiment beaucoup forgé. Et je ne vais pas seulement donner des paroles, mais peut-être je vais parler de mon expérience, comment est-ce que cette chorale m'a forgée. Alors, comme vous êtes d'accord avec moi qu'une famille peut évoluer sans l'évangile, il y a plusieurs familles qui sont là. L'évangile n'a jamais existé dans cette famille, mais elle évolue. Alors moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille où ma maman vraiment aimait Dieu. Elle servait Dieu de tout son cœur. Mon père a grandi dans une famille chrétienne, mais lui, avec la question d'église à l'époque, non. Il nous envoyait à l'église. Mes enfants, partez à l'église, parce que là, ça va vous permettre de grandir. Il avait vraiment de bons projets pour nous, mais lui, personnellement, bon, il pouvait ne pas venir à l'église, et des fois, il pouvait venir à l'église pendant qu'il est revenu à la maison à 3h du matin. Mais je bénis énormément Dieu parce que Dieu l'a déjà sauvé. Et aujourd'hui, nous tous, la famille, toute la famille entière, vraiment, nous servons Dieu ensemble. Alors, moi, dans ma famille, comme c'était le cas, ma maman aimait Dieu. Et donc, nous, la question de prière en famille, ça n'existe pas. Mais le fait que j'évoluais dans un groupe ici à l'église, la Couronne des Vies, j'ai rencontré plusieurs autres enfants qui venaient de familles où on priait. Ils avaient des prières, méditations en famille. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait et ça commençait à me tenir à cœur. Je disais, Seigneur, pourquoi chez nous ça ne se passe pas ainsi? Au-delà de ça, j'étudiais au collège Mwanga. Bon, c'est une école catholique, conventionnée catholique. Et il y avait plusieurs catholiques avec qui on étudiait. Donc pour eux, prendre l'alcool, ce n'était pas un problème. Et quand on grandit, à un certain moment, on veut découvrir. Bon, mon père en prenait, et chez nous, on ne pouvait pas manquer de bouteilles. Donc, avec ça, quand les autres me disaient, « Est-ce que tu as déjà pris tel goût du whisky ?» Et je me disais, « Ah, je suis tentée aussi de le faire. » Mais quand je revenais à l'église, j'ai trouvé tout un autre groupe où il y avait d'autres valeurs. Alors, j'étais vraiment divisée entre les deux mondes. Parce que quand j'étais à l'école, on disait, ah, Paporo. Et moi, je me disais, moi aussi m'identifier comme ça. Non. Et donc, j'étais tirée à deux couteaux. Mais le fait d'appartenir à un groupe à l'église m'a beaucoup aidée. Plusieurs de mes amis, ils fumaient du chanvre, prenaient beaucoup d'alcool. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, quand je les rencontre à cours de route, vous pouvez penser que ce sont mes grands-pères, d'autres sont mes pères, parce que tellement, Touraïcha Aribika, Pombe, Bangui, il y a même deux d'entre eux qui sont devenus des vrais fous. Vous partez en cours de route, vous le voyez. Et ça, c'est toujours un témoignage que j'ai toujours donné à mes enfants que j'encadre. Plusieurs sont là, il y a d'autres qui ne sont plus à l'Écodim, il y a d'autres qui sont à l'Écodim. Et pour moi, je suis cet exemple vivant de ce que Dieu a fait pour moi. Grâce à cela, aujourd'hui, bon, je suis fière de dire que non, je sers Dieu. Je suis fière de m'appeler monitrice. Pourtant, avant, dire que non, j'ai chanté dans la chorale. Non, c'est tous mes amis à l'école qui commençaient à me dire, ah, Naoko Muporo, pourquoi vous êtes Beka? Et à l'époque, je voulais devenir catholique. Parce que je me disais, avec les catholiques, on peut partir en boîte. Et quand on est enfant, on a cette curiosité. Il faut que moi aussi, je découvre cela. Quand on est catholique, bon, vraiment, il y avait plusieurs, moins de restrictions. Et à un certain moment même, je disais à maman, moi, je vais rester chez les catholiques. Parce que je commençais même à chanter. Je ne dis pas que chez les catholiques, il n'y a pas de chrétiens, non. Mais mes amis avec qui on a évolué, vraiment, il y avait beaucoup de légèreté. Et aujourd'hui, je me dis, si j'avais continué sur cette voie, je ne serais pas cette monitrice qui est en train d'accompagner vos enfants. Je ne saurais pas ajouter ce plus que Dieu met en moi pour accompagner ses enfants. Mais parce que j'ai évolué dans ce groupe, Dieu, à partir de là, Dieu m'a repêché. À partir de là, j'ai reçu Christ dans ma vie et j'ai commencé à les servir. Et pour moi, je ne regrette pas. C'est vrai, comme la sœur Annette était en train de le dire, on n'a pas laissé des traces. Je me rappelle un temps, c'était notre premier album, si je me rappelle, et il fallait qu'on puisse enregistrer. On s'était tous préparés, il y a plusieurs qui sont là, qui ne vont pas me contredire. Nous partions à Hôtel Linda pour commencer à faire enregistrer vidéo, audio et tout. On avait même préparé la danse. Et je me rappelle, à l'époque, c'était Papa Zicho. Il montait même sur des clôtures et nous disait que non, vous voyez comme des images qu'on voyait à la télé, on va vous voir des déçus. Il montait même à la clôture pour prendre des images. Bon, malheureusement, ce n'était pas sorti. Mais vous ne pouvez pas voir. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu le fruit, le produit final de cela. Mais vous ne pouvez pas voir la joie que j'avais. Je ne sais pas danser, mais on s'était organisé un groupe joyeux. Et là, elle se rappelle, on dansait et on est parti. Les autres chantaient. Moi qui ne savais pas chanter, bon, même danser, je me suis dit, mais quand même, je peux me réfugier dans la danse. En fait, ça fait partie des très belles expériences que nous avons vécues, que nous gardons jusqu'à aujourd'hui. Servir l'Éternel a ta saveur. Et je ne regrette pas d'avoir passé toutes ces années en train de servir Dieu, parce que grâce à la couronne des vues, j'ai découvert maintenant ma force. Pour moi, c'était devenir enseignante des enfants à l'école des dimanches. Et c'est un avantage que nous avons quand nous évoluons dans des groupes pareils. Merci.
Merci. Papa Jérémy, est-ce que vous avez chanté un jour? Est-ce que vous avez chanté un jour, vous aussi?
Pas comme enfant, un peu plus à l'âge adulte.
Ah, d'accord. Alors, je reviens à la sœur Jolie. À quel niveau êtes-vous satisfaite du progrès des enfants au sein de la chorale Courant de Vie?
On est satisfait de l'évolution des enfants dans notre chorale à 99,9%. Et nous pouvons vous le prouver. Je vais juste inviter ici deux enfants. Ils viendront vous prouver ce que je dis. Raïssa et Joy, est-ce que vous pouvez vous avancer?
Nous allons acclamer pour ces enfants pendant qu'ils viennent. Avancer jusqu'ici, jusqu'ici. Voilà. Elles sont toutes belles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles vont faire?
Elles vont chanter pour nous un cantique vraiment spécial. Et cela va conclure, va vraiment donner raison à ce que je disais.
D'accord.
Le cœur de Jolie était attaché comme ça. Quand maman signe pas tichéral. Alors nous disons merci à Dieu pour ce panel très très intéressant. Chers parents, vous venez de voir combien c'est important de laisser vos enfants servir à l'Église. Je vais libérer nos panélistes. Ensuite, nous aurons un moment où nous allons écouter Papa Jérémy. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, nous allons acclamer le Seigneur. Et Papa Jérémy, il a 15 minutes pour nous parler de jusqu'ici, combien le Seigneur a été avec nous. Bienvenue.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour la gloire du Seigneur? Waouh! Gloire au Seigneur. Jusqu'ici, il a été fidèle. Amen. Waouh! C'est la première fois que j'enseigne assis, je crois. ça fait bizarre, mais c'est quand même une nouvelle expérience. Alors, pendant quelques minutes qui nous restent, on va tourner notre attention vers la parole du Seigneur et nous allons lire dans Genèse chapitre 18. Nous allons juste lire deux versets. Ça ne peut pas être un culte complet si on ne regarde pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ah oui. Genèse chapitre 18, 19 à 19. Voici ce que la Bible nous dit. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Nous pouvons aussi lire quelques versets du psaume 78. Psaume 78. Et je lis « Cantique d'Azaph, mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Verset 5, « Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'il fût connu de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, paroles du Seigneur. » Une des choses que nous devons savoir, c'est que des chorales comme Couronne de vie, comme La Semence, et beaucoup de groupes que nous avons ici à l'église, c'est un peu comme des symboles. Vous savez, quand on parle d'Ebenezer, on voit le prophète Samuel élever une pierre. Une pierre où il dit qu'à chaque fois que nous allons voir cette pierre, nous allons nous rappeler que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et je sais que tous les anciens qui sont passés par la Couronne de vie et d'autres groupes qui encadrent les jeunes, les enfants ici, quand ils regardent ces groupes qui continuent d'exister, des groupes dont ils ont fait partie quand ils étaient enfants, ils se rappellent que oui, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Parce que les mêmes principes qui ont marché avec eux, avec l'ancienne génération, ce sont les mêmes principes qui sont en train de marcher avec cette génération. Il n'y a pas de nouvelles méthodes pour faire de ses enfants des disciples. Non, il n'y en a pas. C'est la même parole de Dieu qui est en train de les forger. Vous savez, une des choses peut-être très particulières avec les chants, c'est que nous mémorisons plus rapidement les paroles des chants que les versets qu'on peut même nous donner. Et c'est pour ça qu'il est même très important pour nous d'avoir des chorales d'enfants. Parce que quand ils sont en train de mémoriser ces chants-là, qui sont basés sur les Saintes Écritures, c'est en train de forger quelque chose dans leur cœur, dans leur esprit. Et nous croyons qu'ils sont en train de devenir petit à petit des disciples solides de Jésus-Christ. Amen. Alors, une des paroles que nous venons de lire nous parle d'Abraham. Abraham qui vient de recevoir des visiteurs chez lui. Et ces visiteurs, au fait, ce sont des gens, des anges, ou même les seigneurs, parce qu'il est parmi ces trois visiteurs qu'Abraham a reçus. Et ces visiteurs lui donnent une nouvelle. Ils lui disent... L'année prochaine, quand nous allons encore une fois nous retrouver chez toi, à ce même moment ici, tu auras un enfant. L'année prochaine, à ce même temps ici, pas quand nous allons nous retrouver, mais à ce même temps, tu vas avoir un enfant. Et Abraham était très hospitalier, il les avait vus de loin, il les a accueillis, il a vraiment tout fait pour que ces gens se sentent à l'aise. Et pendant qu'il était en train de les raccompagner, c'est là maintenant que le Seigneur, parce que quand on marche avec Dieu dans l'intimité, quand on est toujours proche de Dieu, il a toujours des choses à nous révéler. C'est quand Abraham était en train d'accompagner ces trois personnes que Dieu qui est là, parmi ces trois-là, la personne de Jésus, c'est une épiphanie, on appelle ça une épiphanie, une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'Abraham ne pouvait pas savoir que c'est lui. C'est là que comme il marche dans l'intimité avec Dieu, Dieu a encore une autre chose à lui dire. Il veut lui parler du sort qu'il a réservé pour Sodome et Gomorre. Et avant même de lui donner le sort qu'il a réservé pour Sodome et Gomorre, Dieu prononce ces paroles puissantes que nous venons de lire. Que Abraham n'a pas seulement été appelé pour être le père des multitudes, il n'a pas seulement été appelé pour être un canal de bénédiction pour les nations de la terre, mais il a été appelé pour une tâche très fondamentale et très particulière que le Seigneur donne dans ces passages. Genèse chapitre 18, la Bible nous dit que Abraham deviendra certainement une grande nation, mais je l'ai choisi, je l'ai mis à part, afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel. Avant même de devenir ces pères-là, de multitudes, avant de devenir une bénédiction pour toutes les nations de la terre, Dieu a d'abord appelé Abraham à être la personne qui va faire quoi? Qui va aider ses enfants, sa maison, à suivre les voies de l'Éternel. C'est une responsabilité fondamentale et primaire que nous avons en tant que parents, en tant qu'aînés, parce que je sais que tout le monde ici n'a pas encore des enfants biologiques, mais nous sommes des aînés. Nous sommes des références. Ces petits-là qui sont là derrière nous, pour nous les aînés, ils nous regardent et ils apprennent de nous. Et nous devons savoir que Dieu nous a appelés fondamentalement pour que nous puissions les aider à les connaître, à pratiquer ses voies. Et c'est une méthode avérée pour que nous puissions perpétuer justement cette bénédiction que nous avons aussi reçue de nos pères. Amen. Et nous devons savoir que si nous ne les faisons pas, si nous ne sommes pas intentionnels dans ce travail-là, d'amener nos enfants à pratiquer les voies de l'Éternel, d'autres vont les faire. Parce que les discipulats, c'est fait directement et indirectement. Si les enfants, nos enfants, n'apprennent pas de nous les voies de Dieu, ils vont apprendre d'autres voies des autres personnes. Je pense que le témoignage de notre sœur Bilga est parmi vraiment un exemple concret de ce que je suis en train de dire, où elle vous dit qu'elle était tiraillée entre deux influences. Pourquoi? Parce que partout où nous envoyons ces enfants, ils sont sous une certaine influence. Et cette influence peut ou ne pas être une influence qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour nous, en tant qu'aînés, en tant que parents, d'être intentionnels. Intentionnels dans ce travail-là de faire quoi? D'aider nos enfants à pratiquer les voies de l'Éternel. Et la Bible a bien précisé pratiquer. Pas seulement mémoriser des versets. Pas seulement connaître des paroles. Pratiquer. Et pour que ces enfants-là puissent pratiquer, ils doivent nous voir les faire. Et je sais que pour Abraham, c'était le cas. Parce que quand il est parti pour sacrifier Isaac, par exemple, dans Genèse chapitre 22, ils arrivent au sommet de la montagne et Isaac appelle son père, « Mon père !» Et Abraham dit, « Oui, mon fils, je vois qu'il y a les feux, je vois qu'il y a le bois, je vois qu'il y a le bois et il y a tout ce qu'il faut, mais je ne vois pas l'agneau. Comment est-ce que cet enfant a su que pour faire un sacrifice, il fallait qu'il y ait un agneau? » C'est parce que je suis sûr qu'en grandissant, il a observé son père. Il a vu son père le faire. Et donc, si nous voulons vraiment que nos enfants apprennent ces valeurs, qu'ils les pratiquent, nous devons être les premiers à les pratiquer. Nous devons être les premiers modèles qu'ils regardent. Et vous savez qu'une des choses, un des grands privilèges que nous avons en tant que parents, en tant que proche de ces enfants, c'est que nous sommes leur première référence. Nous sommes leur première référence. Il n'y a personne d'autre qui a une plus grande influence sur nous, nos enfants, si ce n'est nous, leurs parents. Nous sommes leur première référence. Et donc, si nous échouons en tant que première référence à les mener sur la bonne voie, en tout cas, nous venons de créer un très grand déséquilibre dans la vie de ces enfants. Nous venons de créer un très grand déséquilibre. Alors, très rapidement, je vais juste te donner quelques manières pratiques. J'ai dit que la méthode n'est pas nouvelle. Tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas nouveau, c'est toujours ancien. Et la Bible vient de nous montrer encore une fois, dans les psaumes que nous venons de lire, que ce sont les mêmes méthodes qui s'appliquent de génération en génération pour former des jeunes disciples. Même si aujourd'hui on peut parler de la génération Z, vous savez qu'on est en train de classifier les générations, on dit qu'il y a les générations des boomers, il y a des générations X, il y a ceux qui sont nés avant les ordinateurs, ceux qui sont nés après les ordinateurs. Vous devez savoir qu'il y a une sagesse, qu'il y a des principes qui transcendent les générations. Et cette sagesse-là, c'est celle que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Parce qu'elle s'applique à toutes les générations. C'est ce que le psalmiste est en train de nous dire dans le psaume chapitre 78. Parce que quand il est en train de parler, il dit, psaume 78, « Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, j'ai publié la sagesse des temps anciens. » La sagesse des temps anciens. Cette même parole qui a aidé nos parents à marcher avec le Seigneur s'applique même pour nos enfants aujourd'hui. Cette même parole-là, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos parents nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Et donc, la même fondation que nous avons dans la parole de Dieu, c'est la même fondation dont ces enfants ont besoin pour grandir et être des bénédictions, non seulement pour nos familles, mais aussi pour ce monde. C'est cette même fondation-là. Et vous devez savoir que nous, en tant que parents, quand nous sommes en train d'enseigner à nos enfants la parole et à la pratiquer, c'est à la fois une responsabilité personnelle, notre sainteté, notre vie de consécration, mais c'est aussi une responsabilité sociale. C'est aussi une responsabilité sociale. Une deuxième chose que nous devons savoir, c'est que quand nous vivons la parole, quand nous la pratiquons, nous, en tant que parents, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins fidèles. Au fait, nos enfants ont besoin de voir que, ah, je vois que mon père, il est vraiment très impliqué, ou ma mère, elle est très impliquée dans les choses de l'Église. Pourquoi? Quand vous faites ça, c'est un témoignage vivant pour ses enfants. C'est un témoignage vivant pour ses enfants. Parce que quand on enseigne la parole, ce n'est pas pour que les enfants la mémorisent, c'est justement pour qu'ils l'appliquent. Et c'est quand nous l'appliquons, quand nous sommes impliqués dans les activités de l'Église, quand nous servons le Seigneur, quand nous appliquons la justice, alors ces enfants-là sont inspirés et se disent « Waouh, j'ai des témoins, des personnes qui m'ont déjà montré la bonne voie à suivre. » Amen. Donc c'est un témoignage. Il y a une autre chose que je dois noter aussi dans les psaumes 78, c'est que oui, le Seigneur a donné des principes aux parents. Oui, nous pouvons témoigner à travers notre vie, à travers notre service, mais nous devons aussi prévenir nos enfants qu'il y a une conséquence pour la désobéissance. C'est ce que nous voyons dans les restes du psaume. Parce qu'à chaque fois que les enfants d'Israël s'éloignaient de Dieu, ce psaume, c'est comme une histoire. On raconte encore une fois l'histoire d'Israël. À chaque fois que les enfants d'Israël s'éloignaient des voies de Dieu, eh bien, il y avait des punitions pour ça. Et c'est là qu'il y a même de la place pour la discipline des parents. Parce que nous devons montrer à ces enfants qu'il y a des conséquences si nous nous éloignons de la bonne voie. Il y a des conséquences. Ça peut être indirect, ça peut être direct. C'est pour ça que même la Bible recommande aux parents de discipliner leurs enfants, n'est-ce pas? Je me rappelle que pour nos mamans, en tout cas, elles nous disciplinaient de manière à ce qu'à chaque syllabe qu'elles prononçaient, ça correspondait à un coup. Donc, aussi, coup, na, te, ze. Il y a de la place pour ça. Il y a de la place pour ça, il y a de la place pour ça, mais la Bible nous rappelle aussi que même Dieu, dans sa discipline pour ses enfants, il les fait avec retenue. Le même psaume nous dit, psaume 78, le verset 38, il dit « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Même Dieu, quand il discipline, il retient sa colère. Et le verset 39 dit « Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. » Donc Dieu, quand il nous regarde en tant que ses enfants, il sait combien nous sommes fragiles. Et que même dans notre discipline, nous en tant que parents, nous devons nous rappeler que ces enfants sont fragiles. Et donc nous devons faire preuve de retenue. De retenue dans notre discipline. Nous devons faire preuve de grâce dans notre discipline. Et pour conclure, peut-être une quatrième chose que nous devons savoir, c'est que il n'y a pas de parents parfaits, n'est-ce pas? Nous, en tant que parents, nous n'aurons pas toujours raison en toutes choses. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de toujours pointer nos enfants vers le berger par excellence, dont nous avons tous besoin et qui est le Christ. Le psaume que nous venons de lire finit par une note d'espoir. Parce qu'il dit, au verset 70, que malgré l'infidélité des enfants d'Israël, malgré que Dieu était toujours en train de leur montrer sa bonté, mais ils s'éloignaient toujours de lui, Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné. Dans la conclusion du psaume, il dit que Dieu a choisi un roi, David. Il a choisi un roi, David, pour faire paître son peuple. Et David va le diriger avec un cœur intègre et va le conduire d'une main intelligente. Vous savez que la représentation de David aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus est appelé le fils de David. Et donc, à chaque fois que nous nous trouverons en tant que parents, que nous avons des limites, et quand nous voyons même l'imperfection et les erreurs que nos enfants vont commettre, nous devons toujours prier pour eux. Parce que malgré les modèles que nous pouvons leur montrer, nous n'avons pas le pouvoir et la capacité de les transformer. Seul Jésus est capable de les transformer. Seul Jésus est capable de faire d'eux des disciples, de changer leur cœur. Et c'est pour ça que nous devons, en tant que parents, les pointer toujours vers le berger par excellence, qui est le Christ, qui est le Fils de David. Amen, amen. Et donc, que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse sa parole. Amen.